La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair.
Je suis à nouveau aujourd'hui avec le professeur Henri Rehm, qui est astrophysicien à Toulouse, à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie, et qui est professeur émérite à l'Université de Toulouse. Nous avons parlé la semaine dernière de ce que sont les comètes, qui sont des objets célestes très spectaculaires quand on les voit arriver dans notre ciel, mais qui sont en fait, quand ils ne sont pas près du Soleil, ce qu'on appelle des petits corps, c'est-à-dire des petits objets célestes qui ont de la glace, des poussières. On a vu que c'était très important de les observer en détail parce que, en fait, on sait que ces objets ont été formés très tôt à la formation du système solaire. Et donc, de bien les étudier, ça permet aussi de mieux comprendre le grand nuage de gaz qui était là quand le Soleil et les planètes se sont formés. Donc, on va en reparler aujourd'hui. On va parler des expériences spatiales, enfin de certaines expériences spatiales pour aller voir de près ce que sont ces comètes. Et on va commencer par l'expérience Giotto, qui a été lancée dans l'espace en 1985. Et donc, Henri Rehm a été ce qu'on appelle un principal investigateur, c'est-à-dire quelqu'un qui gère le projet. Et donc, Henri, avant que tu nous parles de cette expérience Giotto, tu peux nous dire pourquoi elle s'appelait Giotto? Parce que pour moi, Giotto, c'est un peintre.
Et c'est même un très grand peintre. Giotto avait vu en 1301 une comète qui était magnifique cette année-là. Et en fait, c'était déjà la comète de Halley. Et
Excuse-moi, elle revient à peu près tous les... C'est une comète récurrente qui revient à peu près tous les 80 ans.
Oui, 76 ans. Hein. Et c'est une comète tout à fait régulière maintenant, mais qui évidemment, chaque fois qu'elle passe, perd du gaz. Et un jour, dans très longtemps, on ne la verra plus, mais pour le moment... On la reverra la prochaine fois.
Bah, on ne craint plus tout cela.
Non, on ne la reverra pas. Donc Giotto di Bondone, le célèbre peintre italien, avait peint une adoration des mages et au-dessus, l'étoile des bergers est remplacée par la comète. On sent vraiment que Giotto avait été impressionné par cette comète. Il a voulu la représenter dans le ciel de la nativité.
Et donc, cette comète, la comète de Halley, tu peux peut-être nous dire qui était M. Halley et quand il a découvert cette comète. Tu peux nous en dire quelques mots?
Oui. Alors, Edmond Halley était un astronome très, très connu, très coté, membre d'un certain nombre d'académies. C'était vraiment quelqu'un...
C'était un Anglais, excuse-moi.
C'était un Anglais.
Oui.
Et Edmund, son prénom... Et en 1705, il a publié un livre avançant que les comètes qui étaient apparues dans le ciel en 1531, en 1607 et en 1682 étaient en fait une seule et même comète qui revenait périodiquement. Et effectivement, 76 ans après le passage précédent de 1682, en 1758, la comète est revenue. Halley était mort déjà depuis un certain temps, mais sa prédiction était bonne.
Mais alors, tu m'as raconté un truc à propos du tsar de Russie. Alors, on se demande ce que le tsar de Russie vient faire là, mais tu ne peux pas nous raconter un petit peu cette histoire?
Oui, Edmond Halley était vraiment un personnage qui avait une réelle importance. Il avait sympathisé avec le tsar de Russie, Pierre le Grand. Et Pierre le Grand est venu le voir dans son observatoire en Angleterre. Et il aimait bien regarder le ciel. Et donc, il partait, il logeait, je suppose, près chez Halley ou très près de chez lui. En tout cas, ils partaient ensemble pour observer le ciel. Mais ils observaient tout en vivant bien, en arrosant ça. C'est pas compliqué. Les deux, à la fin de la nuit, étaient sous. Et c'est le moins sous qui ramenait l'autre dans une poule.
Comment est-ce qu'ils voyaient les étoiles si c'était... Ils devaient voir des étoiles doubles.
Au départ, ils les voyaient bien, mais après...
Bon, ben, on va peut-être revenir à Giotto cette fois-ci, l'expérience spatiale. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus en détail de cette expérience, cette mission spatiale qui a été envoyé il y a déjà assez longtemps, mais qui a apporté beaucoup d'informations sur les comètes, et Halley en particulier.
Alors, Giotto était une mission assez exceptionnelle, parce que c'est un satellite de l'ESA, de l'Agence spatiale européenne, dans lequel il y avait un certain nombre de contributions. J'étais personnellement responsable de deux instruments. Un instrument pour mesurer les électrons, la répartition des électrons dans l'environnement cométaire, et un autre pour mesurer les ions. Giotto était destiné à survoler la comète. La vitesse de Giotto par rapport à la comète, c'était 76 km par seconde.
Oui, donc en fait, il est passé à toute vitesse à côté.
Et c'est allé très, très vite. Et il a fallu faire des observations, mais c'était ce qu'on appelle un survol. Hein. Donc, ça n'a rien à voir avec des sondes qui ont essayé de se rapprocher lentement. Là, la comète allait très vite, il fallait la survoler. Et il y a eu des photos qui ont été réalisées par la caméra qui ont montré que c'était un corps qui émettait de la lumière, évidemment, par les éjections de matière, mais aussi qui était un corps qui était très foncé. Donc, ça a été des résultats très importants. Et moi, je ne vais pas citer tous les ions qu'on a trouvés. Là, j'ai tout. Mais il y avait en particulier de l'hydrogène, de l'azote, du carbone, de l'oxygène, tout ça, des molécules déjà très complexes et qu'on a pu mettre en évidence.
Mmh. Et donc ça, c'était, bon, il y a déjà assez longtemps, et ensuite, plus récemment, il y en a eu d'autres, et en particulier Rosetta.
Rosetta, c'est la suite, si je peux dire, puisque ça a été une mission qui a été faite par l'Agence spatiale européenne, mais avec une contribution d'un très grand nombre de pays, et les Américains, et un certain nombre d'Américains qui sont venus. Pourquoi Rosetta ? On l'a appelé.
C'est la pierre de Rosette, non ?
Eh bien voilà, la pierre de Rosette. La pierre de Rosette qui a été trouvée en 1799 par des soldats français. Il y a trois textes identiques. Hein. Un qui décrit un décret de l'an 196 avant Jésus-Christ, en deux langues, l'égyptien ancien et le grec ancien. Et puis il y a trois écritures égyptiennes en hiéroglyphes égyptiens et en écriture démotique. Et alphabet grec. Et donc, cette pierre a permis à Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes en 1822.
Et donc là, l'idée, c'était que la mission allait déchiffrer la comète.
Exactement. Exactement. Voilà l'origine du nom. Le lancement a eu lieu à Kourou le 2 mars 2004.
Donc, en Guyane, le centre de lancement de Guyane française.
Centre lancement de l'Agence spatiale européenne, qui est un centre évidemment français. Alors, il y a eu une première assistance gravitationnelle de la Terre le 4 mars 2005.
Ça veut dire,
un an après,
ça veut dire que la, parce que les gens ont assistance gravitationnelle, ça veut dire que la sonde spatiale, la mission spatiale est arrivée près de la Terre et la gravité de la Terre a permis
de modifier la trajectoire. Voilà. Puis il y a eu une assistance gravitationnelle de Mars le 25 février 2007. Donc, déviation au niveau de Mars. Il y a eu ensuite une deuxième assistance gravitationnelle de la Terre le 13 novembre 2007. Puis un survol d'un astéroïde, l'astéroïde Steins, le 5 septembre 2008. Puis, une troisième assistance gravitationnelle de la Terre, le 13 novembre 2009. Puis, le survol de l'astéroïde Lutetia, le 10 juillet 2010. Et là, après, en juin 2011, la sonde a été mise en hibernation.
C'est ça. Les communicants de l'ESA avaient trouvé quelque chose d'intéressant. Rosetta endormie, et il y avait dans les écoles, réveille-toi Rosetta. Il y a eu beaucoup de... Comment dire, de bruit à ce sujet.
Et le réveil a eu lieu le 20 janvier 2014. Je me souviens, j'étais à Paul Sabatier, on avait le lien direct pour savoir si elle allait se réveiller ou non. Elle s'est très bien réveillée, oui, oui. Et après, il y a eu les manœuvres pour préparer le rendez-vous avec la comète qui a le doux nom de 67P, donc 67 périodiques, Churyumov-Gerasimenko. Pourquoi un nom aussi compliqué ? Ben c'est très simple. On donne aux comètes le nom de ceux qui la découvrent. Ils ne s'appellent pas tous Dupont ou Urin.
Et la comète les a appelés tchouris.
Ah oui, on a appelé, oui, dites tchouris, oui, absolument. Et elle est arrivée à la comète le 6 août 2014. Donc, vous voyez, lancement 2 mars 2004, arrivé 6 août 2014, plus de 10 ans après.
Ah oui. Donc, cette mission Rosetta, elle a conduit à poser un module sur la comète.
Alors, non, je ne vais pas le présenter comme ça. La mission principale, c'est la mise en orbite autour de la comète de Rosetta, qui est un satellite important.
Ah oui, donc c'est-à-dire que la mission principale était en orbite autour de la comète et alors il y a eu un petit module qui a été posé dessus, mais pour toi, ce n'est pas le plus important.
Ah non, Philae, c'est très bien. C'est un atterrisseur qui faisait 100 kilos, mais l'énorme majorité des résultats, ça a été fourni par l'orbiteur.
D'accord. Et donc, il y a eu des résultats sur aussi la composition chimique.
Ah oui, il y a des résultats tout à fait extraordinaires. Et en particulier, on a trouvé de la glycine et du phosphore. Alors, la glycine, ce n'est pas du tout la plante qu'on connaît, c'est une acide aminé. Et c'est des choses qui sont tout à fait importantes. Ça veut dire que déjà, à l'origine du système solaire, ces corps existaient.
Il y avait déjà des molécules d'intérêt pour le vivant.
Voilà.
Et en fait, là, on rejoint des sujets actuels, ce qu'on appelle l'exobiologie, d'essayer de comprendre l'origine de la vie et l'origine déjà aussi des molécules qui sont à la base du vivant. Et donc, c'est totalement ouvert vers l'avenir. C'est long, hein, les expériences spatiales.
Et
c'est intéressant, il faut de la patience.
Il faut de la patience, il faut du temps.
C'est comme les gens qui programment des expériences spatiales et qui ne verront jamais les résultats. C'est d'autres chercheurs plus jeunes qui s'en occupent. Enfin, il y a vraiment, dans le spatial, il y a vraiment une sorte d'abnégation d'un certain côté.
Écoute, je vais te dire, j'ai eu dans ma carrière beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance parce que... J'étais, par exemple, sur une mission martienne américaine qui est arrivée à Mars, a disparu. Et on a refait une mission qui s'est appelée Mars Global Surveyor, qui, elle, est arrivée autour de Mars. Et c'est comme ça que j'ai fait partie de l'équipe qui a découvert le champ magnétique, les restes du champ magnétique martien. Une découverte majeure que je n'aurais pas faite si la première sonde était arrivée.
Je pense que c'est une bonne conclusion. Merci beaucoup, Henri, de nous avoir parlé en détail de ces expériences spatiales pour les comètes et de nous avoir raconté un petit peu comment se passe la vie d'un chercheur qui fait des expériences spatiales avec les hauts et les bas. Mais merci beaucoup, Henri.
Oui, avec plaisir.
Au revoir.